Bonjour et bienvenue dans la plus belle ville du monde, Rouen. Je suis Ludovic, votre guide. Alors aujourd'hui, je vais vous accompagner dans ma ville le temps d'une balade qui va durer environ une heure. Avant de commencer la découverte de ma ville, voici quelques informations à connaître. D'abord, vous avez à votre disposition un fichier audio avec ma voix, mais aussi un document intitulé « Visite de Rouen, mode d'emploi » pour vous aider à vous déplacer dans ma ville et pour bien identifier les monuments dont je vais vous parler. Ces deux documents vous ont été communiqués au moment de l'achat de cette visite audio guidée. Vous êtes libre de découvrir la ville comme bon vous semble. Vous pouvez écouter de manière linéaire ma visite en partant du lieu de départ et en vous dirigeant vers le lieu d'arrivée. Ou bien vous pouvez choisir les histoires que vous souhaitez écouter en vous rendant au minutage indiqué sur le document intitulé « Visite de Rouen, mode d'emploi ». N'hésitez pas à ajuster le volume sonore de cette visite audio pour un confort optimal pour vos oreilles. Envie de faire une pause gourmande ou shopping? Pas de problème. Mettez la balade sonore sur pause et profitez des plaisirs de la ville et reprenez-la quand vous voulez. Pour votre sécurité, faites bien attention à ce qui vous entoure. Même si les conducteurs à Rouen sont respectueux des piétons, la vigilance est toujours de mise. Alors, quel va être le programme de notre visite? D'abord, nous allons commencer par la découverte de l'église Sainte-Maclou, lieu de départ de notre visite. Ensuite, nous irons explorer une ancienne fosse commune, découvrir la cathédrale et les peintures de Monet, admirer le gros horloge, et enfin, nous nous rendrons à proximité du bûcher où Jeanne d'Arc a perdu la vie. Vous êtes prêts? Alors c'est parti. Nous voici devant le premier lieu emblématique de Rouen, l'église Saint-Maclou. Cette église se situe dans le quartier des Antiquaires et juste à côté de la rue Martinville que nous emprunterons dans quelques minutes pour nous rendre à la seconde étape de notre promenade. Avant de vous expliquer l'origine du nom de cette église, replaçons-nous dans le contexte de l'époque. La toute première église Saint-Maclou fut construite à partir de 1116. Malheureusement, en 1200, un grand incendie l'a complètement détruit et par la suite, les ruines de cette église ont été englobées par les murailles suite à l'extension de la ville. C'est véritablement en 1437 que débute la construction de l'église Saint-Maclou qui est devant vous aujourd'hui. À cette époque, nous sommes en pleine guerre de 100 ans. Il s'agit d'un conflit opposant, de 1337 à 1453, la dynastie des Plantagenets à celle des Capétiens et des Valois. À travers elle, c'est le royaume d'Angleterre et celui de France qui s'opposent notamment pour obtenir le trône de France. Au moment du début de la construction de cette église, la ville de Rouen est anglaise et elle le restera jusqu'en 1449. Henri VI de Lancastre, le roi de France et d'Angleterre de l'époque, s'appuie sur la ville de Rouen comme une interface entre son royaume continental et son royaume d'outre-Manche. La ville est généreusement traitée par les serviteurs de l'enfant roi tels que le duc de Bedford, Jean de Lancastre, le régent anglais du royaume de France et oncle d'Henri VI. Ce dernier était très attaché à faire resplendir Rouen et à inverser le processus de suprématie de Paris sur Rouen mis en place par Charles VI de Valois depuis la répression de la Harelle en 1382. C'est pour cette raison que le duc de Bedford ordonna la construction de l'église Saint-Maclou afin de faire resplendir Rouen. Pour être précis, au début Jean de Lancastre, le duc de Bedford ordonna de nouveaux travaux sur l'église Saint-Maclou à partir de 1432. Mais c'était d'abord pour restaurer et remettre à neuf la vieille église dont on parlait déjà dans le Pouillé. Un Pouillé est un registre d'église qui compile les bénéfices, les ressources fiscales et la description des biens immobiliers de tout un diocèse ou d'une abbaye. Le souci, c'était que les paroissiens étaient trop nombreux pour la petite église. Il fut donc décidé d'en construire une nouvelle plus grande pour accueillir la nouvelle population de Drapierre. Et c'est très probablement en 1437, près de 2 ans après la mort de Jean de Lancastre, que la construction de la nouvelle église commença avec la volonté de lui donner une architecture unique et sublime de l'époque. Quand Charles VII de Valois reprit la ville en 1449, la construction a continué, mais des influences parisiennes ont été ajoutées à l'architecture de l'église. Les travaux prirent fin en 1521. Maintenant, voyons voir l'origine du nom de cette église. Saint Maclou vient de Saint Malo, qui est le saint patron des Bretons. À l'époque, c'était le centre religieux du faubourg Martinville, mais aussi un quartier fréquenté par les Bretons pour le commerce du drap. En effet, durant les trois derniers siècles du Moyen Âge, la draperie normande, et notamment rouennaise, était très réputée à la fois pour sa qualité et son côté luxueux. Mais revenons à l'église Saint-Maclou pour observer son architecture extérieure avant d'y entrer à l'intérieur. D'abord, plaçons-nous devant la façade à une distance de plus ou moins 20 mètres. Disons-le tout de suite, il s'agit de l'une des merveilles de la ville de Rouen. La construction de cette église est considérée par les historiens d'art comme un joyau de l'art gothique flamboyant. Mais pourquoi art gothique flamboyant? Eh bien, prenez le temps de lever la tête pour regarder la hauteur de cette église. Admirez la finesse de l'ouvrage, les reliefs et bas-reliefs magnifiques présents sur l'ensemble de l'édifice. Voilà une magnifique église de style gothique. Chaque colonne, chaque élévation, chaque rosace est marquée par des flammes, des formes et des symboles de brasier. De quoi donner à cette église un aspect flamboyant. L'église Saint-Maclou se caractérise aussi par sa forme pyramidale, ses gables ajourés au tympan central, une représentation du jugement dernier. L'église est particulièrement connue pour ses portes de bois, sculptées dans la seconde moitié du XVIe siècle. La flèche néo-gothique culmine à 87 mètres. Autre caractéristique à remarquer, c'est la forme de la façade qui est unique en son genre. La façade n'est pas aplatie, mais forme presque une courbe à 180 degrés. C'est sans aucun doute l'une des seules, voire la seule église au monde à avoir cette particularité. Si vous prenez le temps de regarder en détail la façade, en plus des nombreuses sculptures qui font son charme et sa personnalité. Cette église possède un célèbre portail à cinq porches orné de magnifiques portes en bois sculptées datant de la Renaissance. D'ailleurs, en parlant des portes en bois, saviez-vous qu'il y a des dessins coquins qui y sont sculptés? Si, je vous assure. Approchez-vous de la porte en bois, située le plus à gauche de la façade, quand vous regardez l'église, et vous y verrez des personnages dénudés. C'est coquin pour l'époque. Maintenant que vous en savez plus sur l'extérieur de l'église, intéressons-nous à sa beauté intérieure. Vous allez entrer dans l'église par la porte située à droite de la façade. Quand vous regardez l'église, nous voici au cœur de l'église Saint-Maclou. Appréciez ce moment, car pendant des décennies, cette église était fermée au public et aux fidèles. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'elle a été très endommagée pendant la Seconde Guerre mondiale. Le chœur est demeuré inaccessible jusqu'en 1980. Commençons l'exploration de l'église dès notre entrée avec la présence d'un mobilier intéressant. Situé à droite de la porte d'entrée centrale, il y a un escalier gothique flamboyant. Tout en haut de cet escalier, vous pouvez admirer un très beau buffet d'orgue Renaissance, ainsi qu'un arc de gloire et des confessionnaux baroques du XVIIIe siècle. Si vous effectuez un demi-tour sur vous-même et que vous vous mettez en face de l'allée centrale, vous pouvez observer que la voûte est posée à 40 mètres du sol et sur deux niveaux. Il s'agit d'une caractéristique normande. En effet, si vous regardez attentivement, vous pourrez apercevoir bon nombre de portes. Celles-ci servent à la rénovation de certaines parties de l'édifice. Les dons des fidèles étaient-ils par ailleurs très utiles, car grâce à eux, la grande majorité des vitraux ont été rénovés ou remplacés au XVe siècle. Toujours à propos des vitraux, vous noterez qu'il y a peu de vitraux anciens et ceux que l'on peut observer sont souvent mêlés à des éléments modernes. À noter cependant l'arbre de Jessé du XVe siècle au-dessus du portail nord. Avec un Jessé assis selon une habitude, né en Flandre et, au-dessus du portail sud, une crucifixion. Comme vous pouvez l'imaginer, Saint-Maclou ne fait pas exception à la dégradation au fil des années, en particulier à cause des guerres. Victime des bombardements en 1944, une chapelle au niveau de la sacristie, au fond de l'église, est détruite. L'un des rares vestiges bien conservés dans l'église reste la poutre de gloire et Christ en croix, installé en 1758, situé au début du chœur. Avant de quitter l'église, vous pouvez, si vous le souhaitez, vous balader quelques minutes pour découvrir d'autres éléments présents dans l'église ou bien prendre des photos. Maintenant, nous allons sortir de l'église par la porte située à droite de la porte centrale. En sortant de l'église, ne ratez pas les deux mannequins pieces de Rouen qui datent du XVIe siècle et qui se situent à droite de la sortie et juste en face du restaurant La Valsheim. À présent, vous devriez être au début de la rue Martinville et donc à côté du restaurant La Valsheim. Nous allons marcher le long de l'église Saint-Maclou pendant 2 minutes pour atteindre le deuxième lieu emblématique de Rouen, l'être Saint-Maclou. Nous voici à présent devant l'entrée de l'être Saint-Maclou, deuxième monument le plus visité de Rouen derrière la cathédrale Notre-Dame. L'être Saint-Maclou vous réserve une halte surprenante dans le patrimoine restauré de ma ville. Allez, entrez à l'intérieur en empruntant le chemin qui est devant vous. Vous allez monter quelques marches et ensuite, vous vous dirigerez vers la droite pour accéder à la cour intérieure. Nous voici au sein de la cour intérieure de l'être Saint-Maclou. Vous devez mémoriser une seule date concernant cet endroit, celle de 1348. Pourquoi? Parce qu'en Normandie et à Rouen, c'est le début de la peste noire. La population rouennaise va être très lourdement impactée par la peste noire et le nombre croissant de défunts nécessite la création d'un nouveau cimetière appelé être à l'époque médiévale. Ce cimetière élaboré pour faire face à la grande mortalité va tout de même connaître quelques agrandissements avec 3 galeries ouvertes faisant office d'ossuaire. Au XVIe siècle, l'installation de prêtres, tournée vers l'enseignement dans l'une des ailes, va demander au site une conciliation entre une activité funéraire et une activité scolaire pendant plus de 120 ans. Entièrement désaffecté en 1790, le cimetière et l'école laissent place à un pensionnat, puis le siège provisoire de l'École des beaux-arts de Rouen. Après de lourds travaux de restauration en 2018, mêlant pas moins de 15 corps de métiers spécialisés, le lieu classé monument historique en 1862 accueille de nos jours des structures culturelles et gastronomiques. En effet, ici vous pouvez visiter gratuitement 2 galeries d'art contemporain et je vous recommande le café Hamlet pour une pause déjeuner ou pour le dîner. Maintenant, voyons voir l'origine du nom de cet endroit. Le mot « être » vient du latin « atrium » qui signifie « cour intérieure de la maison romaine antique, généralement entourée d'un portique couvert ». Et Saint-Maclou fait référence à l'église du même nom que vous avez visitée il y a quelques minutes auparavant. Maintenant, intéressons-nous à « ce » qui se trouve autour de vous. Si vous regardez autour de vous, vous pouvez remarquer qu'il y a de nombreux détails qui méritent une explication. Nous allons en choisir 3 et à la fin, j'ajouterai un endroit insolite. D'abord, nous allons nous positionner au centre de la cour, juste à côté de cette croix de couleur noire. Derrière nous, il y a le café Hamlet. Devant vous, vous apercevez la galerie nord. Derrière vous, il y a la galerie sud. À votre gauche, il y a la galerie ouest et à votre droite, il y a la galerie est. C'est par cette croix que nous allons commencer la découverte de ce cimetière. Cette croix, qui date de 1818, s'appelle un calvaire, car l'être Saint-Maclou est un cimetière paroissial où seuls les chrétiens sont enterrés. Cette croix représente la crucifixion de Jésus-Christ. Dirigez-vous maintenant vers la galerie nord pour observer les colonnes. Les colonnes de cette galerie mettent en scène des couples de femmes composés d'une vertu et d'une sibylle. Les sibylles sont des prophétesses antiques reprises dans la tradition chrétienne. Au nombre de 12 dès la fin du Moyen Âge, les sibylles illustrent un passage de la vie de Jésus-Christ, par exemple l'Annonciation, la Passion. Cette figure féminine, tout comme les chapiteaux sculptés de sphinges, de satyres ou d'amour, sont caractéristiques de la première Renaissance à Rouen. Dirigez-vous maintenant vers la galerie Est, pour observer un exemple de la danse macabre. La danse macabre fait référence à une période de l'histoire de France et de l'Europe au cours de laquelle la mortalité de masse était très importante. Au cours du XVe siècle, cela se traduit par des motifs macabres que l'on retrouve dans la littérature, la peinture, la gravure ou la sculpture. Parmi ces motifs, l'un d'entre eux est la danse macabre. Cette danse des morts est un défilé, une ronde représentant des personnages de la société médiévale, toutes classes sociales confondues. Chacun d'entre eux est entraîné par la mort personnifiée par un squelette ou un cadavre. Aucun ne saura lui échapper. La danse macabre délivre un message chrétien. Se préparer à faire face à Dieu lors de son jugement particulier, dans l'espoir d'une vie meilleure éternelle. Récemment restaurée, la danse macabre de l'être Saint-Maclou est aujourd'hui un des plus beaux exemples de danse sculptée en Europe. Vous pouvez voir des exemples de danse macabre sur la galerie Nord, où nous étions précédemment. La mort des hommes est abordée dans son fondement initial chrétien, le péché originel avec Adam et Ève. Sur la galerie Ouest, on observe la danse macabre des laïcs placés de manière hiérarchique, empereurs, rois, nobles. Et sur la galerie Est, où nous sommes maintenant, ce sont les ecclésiastiques qui sont représentés, le pape, l'évêque et le moine. Chaque colonne présente à chaque fois un couple composé d'un mort et d'un vivant. Le vivant résigné ou apeuré est accroché par le mort qui l'emmène vers son inévitable trépas. De l'autre côté de la cour, c'est la galerie Ouest, où vous pouvez remarquer d'autres statues représentant la danse macabre. Si vous vous dirigez vers cette aile du cimetière, vous remarquerez que l'architecture du rez-de-chaussée est légèrement différente des trois autres galeries. C'est normal, car pendant longtemps, la galerie Ouest fut un lieu de circulation totalement ouvert, permettant de relier les deux entrées du cimetière. En 1890, elle est entièrement fermée pour accueillir des salles de classe. Des fenêtres sont posées en façade et des cloisons sont créées. Aujourd'hui, grâce à une restauration menée entre 2018 et 2020, la galerie a retrouvé sa vocation déambulatoire originelle. Maintenant, si vous reculez de quelques pas, vous pouvez observer des dessins sculptés sur les poutres en bois. Après la croix et la danse macabre, c'est la troisième chose que je veux vous montrer ici. Mais je vais d'abord vous poser une question. Selon vous, pourquoi a-t-on sculpté des crânes, des os et des pelles sur ces poutres en bois? Je vous laisse quelques secondes pour réfléchir. En fait, la raison de ces sculptures est simple. À l'époque, très peu d'habitants savaient lire, par conséquent, pour leur faire comprendre que cet endroit était un cimetière. Il fallait utiliser des dessins ou des images. C'est pour cette raison que des motifs macabres comme des crânes et des os ont été sculptés sur les poutres en bois. Félicitations si vous aviez trouvé la réponse. Avant de quitter l'être Saint-Maclou, laissez-moi vous montrer quelque chose d'insolite. Pour cela, dirigez-vous vers la galerie sud, là où se trouve le café Hamlet, et dans le coin de la cour, tout à droite, allez regarder à travers la vitre. Eh oui, c'est bien un chat momifié à l'intérieur. Mais que fait-il ici? En fait, il faut se souvenir qu'en 1348, à Rouen, comme dans le reste de la France, il y a une vieille croyance parmi les habitants qui raconte que le diable se trouve dans le corps des chats noirs. Et au moment de la construction de ce cimetière, des travailleurs rouennais ont aperçu un chat noir. Pour protéger le cimetière contre les mauvaises ondes du diable, ces travailleurs ont tout simplement décidé d'emmurer vivant ce chat. C'est seulement pendant les années 70, suite à des fouilles archéologiques, qu'un archéologue a découvert ce chat, l'a restauré et aujourd'hui, il est exposé dans cette vitrine devant vous. Avant de quitter l'être Saint-Maclou, vous pouvez, si vous le souhaitez, vous balader quelques minutes pour découvrir d'autres éléments présents dans ce cimetière ou bien prendre des photos. Maintenant, nous allons ressortir par le même chemin par lequel nous sommes entrés et, ensuite, nous allons tourner à droite pour remonter vers l'église Saint-Maclou. Pendant cette marche de 2 minutes, observez la maison qui penche devant vous. C'est notre petite tour de Pise à nous. Lorsque vous serez à nouveau entre les deux Manneken Pis et le restaurant La Walsheim, continuez à marcher vers la gauche. Vous devez passer entre l'église Saint-Maclou et la maison qui penche. Ensuite, vous prendrez à droite pour rejoindre le début de la rue Saint-Romain. Puis, vous devez traverser la rue de la République. Nous voici au début de la rue Saint-Romain et nous allons nous rendre devant le plus bel endroit de Rouen, sa cathédrale. Mais avant d'y arriver, laissez-moi vous donner quelques conseils sur la rue Saint-Romain. D'abord, dans cette rue, sur votre gauche, vous allez apercevoir dans quelques instants l'historial Jeanne d'Arc, un musée ouvert en 2015, qui propose un parcours interactif et ludique dans un cadre médiéval. Je vous le recommande vivement, surtout si vous vous intéressez à l'histoire de Jeanne d'Arc. Pour bien profiter de ce musée, vous aurez besoin d'au moins 1h30. Ce musée est ouvert tous les jours, y compris le dimanche. Quelques mètres plus loin, sur votre droite, vous apercevrez un salon de thé intitulé Dame Cakes. C'est l'un des plus anciens salons de thé de ma ville. Pour une pause gourmande salée ou sucrée, c'est un très bon endroit. Tout est fait maison. Mon conseil, s'il fait beau, demandez une table sur la terrasse verdoyante. Encore quelques mètres plus loin, au bout de la rue Saint-Romain, vous verrez le restaurant L'Audace. L'un des meilleurs de ma ville, ce n'est pas le restaurant le plus économique, mais c'est une vraie expérience gustative que vous allez vivre. Maintenant, dirigez-vous vers la gauche pour découvrir une partie de la cathédrale. Vous allez vous positionner sur le parvis de la cathédrale en face de sa façade pour découvrir son histoire. Nous voici à présent devant le monument le plus prestigieux de la ville de Rouen, la cathédrale Notre-Dame. La cathédrale est un ensemble architectural dont les premières pierres remontent au milieu du Moyen-Âge, soit vers 1030. L'édifice a connu différentes périodes architecturales et historiques qui le rend unique. On peut souligner notamment de nombreux dégâts provoqués d'abord par l'incendie de 1940, puis par les bombardements de la Royal Air Force lors de la Seconde Guerre mondiale. Miraculeusement épargné de justesse dans son ensemble, ce précieux témoignage de l'évolution de l'art gothique est considéré comme la plus humaine des cathédrales. Un compliment justifié par l'asymétrie de sa façade, qui ici était davantage perçue comme une force plutôt qu'une faiblesse. La toute première chose à savoir concernant la cathédrale concerne la durée de sa construction. Le début de la construction a commencé en 1030 pour se terminer en 1876. Il a fallu plus de 800 ans pour la construire. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il y a eu la peste noire, des incendies, des problèmes de financement et d'approvisionnement en matériaux. Tout cela explique la lente construction de la cathédrale. Avant de regarder en détail sa beauté extérieure, voyons voir ensemble l'origine du nom de cette cathédrale. Le mot cathédrale renvoie, à l'origine, à une église dans laquelle se trouve le siège de l'évêque, la cathèdre, ayant la charge d'un diocèse. Un diocèse, pour faire simple, est le territoire placé sous la responsabilité d'un évêque. Le mot cathédrale renvoie donc à une fonction et non à une forme spécifique d'église. Quant à la seconde partie du nom de la cathédrale, Notre-Dame. Le mot « dame » désigne Marie, la mère de Jésus-Christ, qui a une place particulière dans le cœur des chrétiens. Revenons maintenant à l'architecture extérieure de la cathédrale, avant d'entrer à l'intérieur. D'abord, plaçons-nous devant la façade si cela n'est pas déjà fait. Je vais d'abord partager avec vous des informations générales sur la cathédrale, et ensuite nous verrons ensemble quelques points précis concernant sa façade. La première caractéristique de cette cathédrale est sa hauteur. Vous êtes devant la plus haute cathédrale de France. Eh oui, même la cathédrale de Paris est plus petite. Grâce à sa flèche en fonte de 1876, s'élevant à 151 mètres de hauteur, vous êtes devant la bâtisse religieuse la plus grande de sa catégorie en France. Une première place sur le podium qui fait la fierté des habitants de Rouen et moi le premier. Et au niveau mondial, elle se place en troisième position après les cathédrales allemandes situées dans les villes de Cologne et de Ulm. La deuxième caractéristique que vous avez peut-être déjà remarquée concerne sa largeur. Elle mesure presque 62 mètres de large. Encore une fois, c'est la première de France dans ce domaine. Si vous vous intéressez à l'architecture gothique et à la peinture, en regardant la façade, vous devriez penser à un célèbre impressionniste français, Claude Monet. En effet, c'est la fameuse série « Les cathédrales » peinte par Monet à laquelle vous devriez penser. Et devinez quoi, vous avez devant vous le modèle originel. C'est la cathédrale de Rouen qui a servi de modèle à Monet. entre 1892 et 1893, Monet a peint 30 toiles de la façade. Claude Monet a vécu pendant 2 ans à Rouen. Et vous savez quoi? Juste derrière vous, il y avait l'atelier de Claude Monet. Retournez-vous et repérez devant vous la grande pharmacie. À gauche de la pharmacie, vous apercevez un bâtiment couleur beige avec des sculptures sur les colonnes et entre le rez-de-chaussée et le premier étage. À l'angle gauche de ce bâtiment, au sein du premier étage, se trouvait l'atelier de peinture de Monet. C'est depuis cette fenêtre que Claude Monet avait une vue imprenable sur la façade de la cathédrale. D'ailleurs, vous le savez peut-être, mais en tant qu'impressionniste, ce qui intéressait Monet n'était pas tant les détails que l'atmosphère qui se dégageait d'une scène. C'est notamment pour cette raison que Monet a été l'un des premiers peintres impressionnistes à abandonner son atelier de peinture pour aller peindre en extérieur. Cela lui permettait d'être au plus proche de ceux qu'il observait et de cette lumière si spéciale qu'il souhaitait capter via ses pinceaux. Cependant, peindre en extérieur n'est pas toujours facile et encore moins en Normandie lorsqu'il pleut. C'est pour cette raison que Monet a utilisé la technique des petites touches de couleur qui ne mélangent presque pas afin de peindre plus rapidement et de capter ainsi cette lumière qui le fascinait tant. C'est ainsi que, grâce à son travail acharné et à cette technique, que Monet a peint en 2 ans 30 toiles de la façade de la cathédrale. Dans le document qui vous a été fourni, vous pourrez voir un exemple d'une peinture de Monet. Si vous êtes un bon observateur, vous remarquerez qu'à son époque, une horloge était accrochée sur la façade de la cathédrale, mais qu'aujourd'hui elle a disparu. Mais pour quelle raison? Tout simplement, à partir de 1895, un chantier de rénovation de la façade a débuté. Cela fait suite aux précédentes rénovations de la cathédrale qui ont concerné notamment le portail des libraires, le portail de la calande et l'intérieur de l'édifice. À cette époque, la façade est fortement endommagée et c'est à Louis Sauvageau que revient le défi de redonner une seconde vie à la façade occidentale. 13 ans plus tard, soit en 1908, les travaux sont terminés et le résultat va être légèrement différent de la façade peinte par Monet. En effet, suite aux travaux de rénovation, l'horloge initialement présente sur la façade a été retirée pour l'accomplissement des travaux et n'a jamais été remise à sa place. Vous connaissez maintenant l'origine de la disparition de l'horloge. À présent, si vous regardez l'ensemble de la façade, vous pouvez remarquer que celle-ci n'est pas du tout symétrique. Il y a des détails différents parsemés un peu partout. Prenons l'exemple des 2 tours. Celle située à votre gauche s'appelle la tour Saint-Romain. Vous vous souvenez de la rue Saint-Romain que nous avons empruntée il y a quelques minutes? Eh bien, c'est le même saint. Cette tour Saint-Romain a été construite au XIIe siècle alors que l'autre tour, à votre droite, qui s'appelle la tour de beurre, a été construite au XVe siècle.
Prenons le temps maintenant de détailler les caractéristiques de ces 2 tours. La première, la tour Saint-Romain, mesure 82 mètres de haut. C'est la partie la plus ancienne de la cathédrale. Son aspect la rapproche plus d'un beffroi que d'une tour d'un édifice religieux. À l'origine, sa partie inférieure fut conçue comme partie intégrante de l'enclos canonial. Les historiens la datent des années 1150-1160. Sa succession de baies géminées, c'est-à-dire de fenêtres divisées en 2 parties égales, généralement verticales, qui s'agrandissent à mesure que l'étage s'élève, conserve un petit air roman. Enfin, la partie supérieure, que l'on distingue très facilement grâce au changement de couleur, elle n'a pas été restaurée récemment, a été élevée de 1469 à 1460-17 par Guillaume Pontife, qui construira juste après la bibliothèque des chanoines. Cet étage, en gothique flamboyant, est surmonté d'un toit en pavillon, détruit en 1944 et reconstruit. Le dernier étage accueille les cloches. Le carillon de la cathédrale de Rouen est l'un des plus importants de France. Dans la salle basse de la tour Saint-Romain se trouve le baptistère de la cathédrale. Initialement, la tour Saint-Romain ne devait être réunie à la cathédrale que par un pont de pierre construit à plus de 12 mètres au-dessus du sol. Ce pont donnait directement dans les tribunes de la nef nord. Comme les tribunes n'ont jamais été construites, la porte qui reliait les deux bâtiments a été bouchée et le passage transformé en chapelle. Le vide entre les deux bâtiments a été bouché dès la fin du XIIIe siècle. La seconde tour, la tour de beurre, mesure quant à elle 75 mètres de haut. Elle doit son nom à l'argent collecté auprès des paroissiens qui devaient payer s'ils voulaient continuer à consommer du beurre et des produits laitiers. Ces produits étant interdits pendant la période du carême. Cette tour, de style gothique flamboyant, est nettement postérieure à la tour Saint-Romain, puisqu'elle a été construite par Guillaume Pontife à partir de 1485. À l'origine, dans ce qui est maintenant le rez-de-chaussée de la tour, se trouvait la chapelle de la paroisse Saint-Étienne-la-Grande-Église. Cette chapelle, qui semblerait remonter au Xe siècle, occupait en fait un espace plus vaste. C'était le bas de la tour et les deux chapelles latérales sud attenantes, espace auquel il faut encore ajouter les deux travées du collatéral sud qui bordent ces chapelles. En 1496, un accord eut lieu entre les trésoriers de la paroisse Saint-Étienne et le chapitre de la cathédrale. Le rez-de-chaussée de la tour fut canoniquement déclaré paroisse. Henri Potin, supérieur des Carmes de Rouen et collaborateur de l'archevêque Georges Poremier d'Amboise, vint bénir sa base architecturale afin d'en concrétiser la dédicace. À la Révolution, cette paroisse fut supprimée et la cathédrale prit le relais en une vaste paroisse, Notre-Dame-la-Grande-Église. Revenons à la construction de la tour de beurre et suivons ce qu'en dit le Congrès archéologique de France tenu à Rouen en 1926. On savait que la chapelle Saint-Étienne reposait sur un sol de mauvaise qualité et l'on hésitait à construire une tour au-dessus. Toutefois, en 1485, Guillaume Pontife fit des sondages et indiqua que l'on pouvait élever la tour sur de simples fondations. La construction commença, mais rapidement des tassements se produisirent, qui firent pencher vers le sud l'élévation déjà construite. Guillaume Pontife dut reprendre d'aplomb la construction. C'est son successeur, Jacques Leroux, qui termina les parties hautes. En 1507, Leroux commença à élever une flèche, mais dut arrêter au profit d'une couronne octogonale. Sur le plan ornemental, cette tour soulève l'intérêt par sa décoration graduée. Dans les parties basses, elle est très sobrement ornée de contreforts et de baies qui s'enrichissent de plus en plus à mesure que le regard s'élève. Un contrefort est un mur servant d'appui à un autre mur. Et une baie est une ouverture dans un mur pour laisser passer la lumière. Les statues apparaissent discrètement à l'étage de la plomberie. Plus haut encore, toute la beauté flamboyante éclate dans un festival de voûtes pointues, de frontons triangulaires, encadrant somptueusement les fenêtres pour venir se composer avec la balustrade supérieure. Maintenant, déplacez votre regard sur la partie centrale avec ses trois portails. Cette partie centrale a été construite du XIIe au XVIe siècle. Elle se distingue par une irrégularité générale, issue des changements de plan, des arrêts, des restaurations et des additions diverses. Un point la différencie des façades des autres cathédrales françaises. Les tours Saint-Romain et de beurre ne font pas bloc avec l'ensemble. Ce fut vers les années 1180 que l'on commença la construction des trois portails. Interrompue par l'incendie de l'an 1200, elle reprit avec force décoration, colonnettes et statues. Les tympans des portails nord, à votre gauche, et sud, à votre droite, qui illustrent l'histoire de Saint-Jean-Baptiste et celle de la lapidation de Saint-Étienne, sont du XIIIe siècle. Quant au portail central, il fut détruit au tout début du XVIe siècle. Pour des raisons de robustesse de la façade, on décida de bâtir deux puissants contreforts dans le prolongement des grandes arcades de la nef. Ces contreforts, de forme pyramidale, furent amplement décorés. Des niches y abritaient des rangées de statues surmontées de dais et de clochetons, le tout ciselé dans l'art du gothique finissant. La récente restauration, terminée en 2015, met bien en évidence toute cette abondance, bien que la rangée basse des statues ait disparu. Notons parmi les signes distinctifs de la façade de la cathédrale de Rouen qu'il y a quatre clochetons très ajourés, en forme de pyramide, qui surplombent la partie centrale. On a pu montrer l'influence anglaise des grandes cathédrales de Wells, Lichfield et Salisbury dans leurs dessins. Nous allons maintenant nous concentrer sur les statues qui ornent la façade. À votre avis, combien de statues ornent la façade de la cathédrale? Eh bien, il n'y en a pas moins de 70. Elles représentent toutes des rois, des saints, des prophètes ou des apôtres. Elles mesurent entre 2 et 2,50 mètres et sont réalisées en craie. Mais pensez-vous qu'elles soient toutes présentes sur la façade? Eh bien non. La cathédrale a beaucoup souffert pendant la Seconde Guerre mondiale et de nombreuses statues ont été endommagées, alors non. Cette façade n'est pas au complet et les statues les plus fragiles sont conservées dans un lieu sûr et les autres sont exposées à l'intérieur même de la cathédrale. C'est la transition parfaite pour nous rendre dans la cathédrale. Allez, entrons à l'intérieur maintenant. Une fois à l'intérieur, placez-vous au début de la nef pour admirer la vue d'ensemble de la cathédrale de Rouen. En comparaison avec l'extérieur, l'intérieur de la cathédrale peut vous sembler moins somptueux. Néanmoins, il y a plusieurs éléments intéressants à découvrir. D'abord, appréciez la hauteur de la cathédrale. Sous la voûte culminant à 28 mètres, la lumière s'engouffre par des vitraux allant du XIIIe au XXe siècle, formant une collection extraordinaire. Il faut prendre le temps de les scruter pour en saisir les détails. Justement, parlons-en de ces vitraux. Au cours de la construction, dès le début du XIIIe siècle, les vitraux sont posés à mesure que les travaux progressent. À partir de 1270, la création des chapelles latérales entre les culées des arcs-boutants nécessite la dépose de 16 vitraux. Cependant, les baies des chapelles, qui ont 4 lancettes, ne correspondent pas à la forme initiale des verrières. Une lancette est un arc brisé, surhaussé. Pour la repose, il faut donc retailler et ajuster, ce qui ne se fait pas sans perte, ni création malheureuse de patchwork. Après la guerre de 100 ans, il sera décidé de changer tous les vitraux de la nef. C'est l'atelier du maître verrier rouennais Guillaume Barbe qui sera chargé de la tâche. Lors de l'incendie de 1822, le bas-côté sud est endommagé et l'on finit par examiner les vitraux de près. Bien qu'ayant peu souffert du feu, celles du côté sud sont dans un état déplorable. En effet, sur ce côté, accolés au mur, se dressent diverses masures privées. Au fil des siècles, leur proximité a provoqué des infiltrations d'eau et plongé tout le bas-côté, dans une humidité qui attaque pierre, verre et peinture. Une première restauration partielle, vers 1823, du verrier Joseph Gourd, non seulement ne plaît pas, mais fait hurler les défenseurs des arts. Le piteux état de l'ensemble des vitraux de la cathédrale devient une évidence. On s'aperçoit que beaucoup sont démembrés. Des vitraux de différentes époques sont accolés les uns aux autres. L'intervention du nouveau peintre verrier Hugh Renaud n'arrange rien. Le démembrement continue, les chapelles du collatéral sud perdent leurs panneaux petit à petit. Le musée des antiquités se met alors sur les rangs, ce qui va faire empirer les choses car il veut constituer sa propre collection de vitraux. Hugh Renaud est chargé d'utiliser des têtes de fragments récupérés et de les insérer dans des montages faits avec des bouts de vitraux venant d'autres églises de la ville. On appelle cela une collection faite de briques et de brocs. En 1858, enfin, une grande campagne de restauration est lancée. On décide de restaurer superficiellement la majorité des vitraux des bas-côtés et d'en changer quelques autres. C'est le maître verrier Jules Boulanger qui est chargé de cette tâche. Prend alors place un débat typique, en France, de la deuxième moitié du XIXe siècle, sur le but de la restauration. Faut-il remettre l'œuvre dans son état primitif, ou faut-il en respecter les modifications intervenues au cours des siècles ? Toujours est-il que Jules Boulanger va déposer beaucoup de vitraux d'origine, qui seront d'ailleurs volés par la suite, et replacer des copies dans les baies des chapelles. Une première dépose de protection a lieu en 1918. En 1939, tous les vitraux anciens, à l'exception des bordures et des grisailles, sont mis en caisse et expédiés au donjon de Niort. Les copies réalisées par Boulanger au XIXe siècle resteront en place. Elles seront pulvérisées par les bombardements d'avril 1944. Après la guerre, les vitraux réintègrent progressivement la cathédrale. Certains seront complétés par la création moderne de l'atelier Max Ingrand. L'édifice accueillera même des vitraux de l'ancienne église Saint-Vincent, détruite elle aussi en 1944, dans la chapelle de la Vierge et à la tour Saint-Romain. Si l'on revient à la nef, Vous pouvez aussi observer que l'élévation de la nef est à 4 niveaux. C'est la marque architecturale des cathédrales de l'époque du gothique classique, c'est-à-dire à la fin du XIIe siècle. Le chœur ne possède que 3 niveaux. Maintenant, dirigez-vous vers la droite, côté tour de beurre. Vous pouvez apercevoir une suite de chapelles. Prenez le temps d'admirer les vitraux jusqu'à la chapelle Saint-Pierre, qui se situe au milieu de la nef à droite, juste avant l'autel. Cette chapelle va me permettre de vous donner l'un des surnoms de la cathédrale aux 7 torpilles. Mais pour bien comprendre, il faut se replacer dans le contexte de l'époque. Nous sommes le 19 avril 1944 et à la veille du débarquement de Normandie, les Alliés bombardent les infrastructures pouvant servir aux Allemands. 6000 bombes sont larguées sur Rouen et son agglomération, faisant 900 morts et 20 000 sinistrés. 7 de ces bombes, ou torpilles, atterrissent sur la cathédrale, la détruisant en partie. Cependant, une statue de marbre représentant une vierge du XVIIIe siècle n'a pas reçu un seul éclat, ce qui a permis à certains de dire que Rouen a vécu plusieurs miracles. C'est suite à cet épisode qu'a été créé un des surnoms de la cathédrale, Notre-Dame des 7 torpilles. Et cette statue est là, juste devant vous avec l'inscription « Nostra Clemens accepte vota », ce qui veut dire « Notre Clémence reçoit nos vœux ». Poursuivez votre exploration de la cathédrale tout droit, direction le chœur, puis le fond de l'édifice. Notre-Dame de Rouen sert de nécropole à d'illustres personnages de l'histoire normande. Leurs gisants sont visibles dans le déambulatoire qui fait le tour du chœur. Un gisant est une statue funéraire représentant le défunt étendu. Outre celui de Roland, premier duc de Normandie en 911, la cathédrale abrite le gisant de Richard Cœur de Lyon, roi d'Angleterre, duc de Normandie, duc d'Aquitaine, comte de Poitiers, comte du Maine et comte d'Anjou. Blessé à la bataille de Châlus, en Haute-Vienne, le souverain s'éteint peu après. Son corps fait ensuite l'objet d'une tripartition. Ses entrailles restent à Châlus. Son corps est enterré en l'abbaye de Fontevraud, en Maine-et-Loire, la nécropole des Plantagenets dont il est l'héritier, et son cœur est transporté à Rouen. Pour information, la tripartition sert à multiplier les messes pour le salut du défunt, mais c'est aussi un geste politique. Une façon de souligner l'attachement du roi à la Normandie. Richard Cœur de Lyon a surtout vécu en France. Il appréciait peu se rendre en Angleterre. Son gisant présente à ses pieds, ô surprise, un lion, symbole de résurrection. C'est un psychopompe, un animal qui doit porter l'âme du défunt au paradis. Selon les historiens, la particularité est qu'il s'agit du seul gisant répertorié en France à avoir une scène sculptée sous son psychopompe. On y voit un chien symbole de bonne gouvernance en train de chasser un lapin incarnant la luxure et un petit dragon représentant le mal, tandis qu'arrive une colombe de la paix. Saurez-vous les retrouver? Vous pouvez vous aider du document PDF pour les localiser. Continuez à avancer pour découvrir l'autre aile de la cathédrale, et en particulier l'escalier dit des libraires et sa dentelle de pierre mène à la bibliothèque de la cathédrale. Pourquoi escalier des libraires? Car cela fait référence à l'une des activités des chanoines, celle de gérer une bibliothèque. En 1477, les chanoines, ce sont des religieux vivant en communauté, souhaitent modifier leur bibliothèque située au premier étage d'un édifice à côté du transept nord. Le but de cette modification, permettre l'accès à certaines personnes lettrées depuis l'intérieur de la cathédrale. C'est à Guillaume Pontife, maître d'œuvre de la cathédrale depuis 1462, que l'on doit les deux premières volées droites de cet escalier en pierre achevé en 1479. L'œuvre sera poursuivie en 1788, lorsque la bibliothèque s'agrandira sur un deuxième étage. Avant de quitter l'église, vous pouvez, si vous le souhaitez, vous balader quelques minutes pour découvrir d'autres éléments présents dans l'église, comme la chapelle Sainte-Jeanne d'Arc ou la tour Lanterne, ou bien prendre des photos. Nous voilà maintenant à l'extérieur de la cathédrale. Afin de poursuivre notre visite, nous allons nous diriger tout droit. Direction la rue du Gros Horloge. Le début de la rue du Gros Horloge se situe à droite de la Grande Pharmacie. Nous voici à présent au début de la rue du Gros Horloge. Devant vous, vous pouvez déjà plus ou moins deviner le prochain centre d'attention de la visite. À la fois immanquable et symbolique, le Gros Horloge est plus que rattaché au passé médiéval de la capitale historique de Normandie. Nous allons passer sous l'arche afin d'avoir le meilleur point de vue sur ce monument. Admirez au passage l'agneau pascal et les moutons sculptés sous l'arche. Avancez de quelques pas encore, puis retournez-vous pour regarder en direction du Gros Horloge. Nous voici donc devant le Gros Horloge, situé au cœur de la ville au sein de la rue piétonne à laquelle il a donné son nom. Il est situé à égale distance de la place du Vieux Marché et du parvis de la cathédrale de Rouen. Juste à côté du Gros Horloge, vous pouvez apercevoir une tour qu'on appelle un beffroi. Dans un premier temps, nous allons nous intéresser à l'histoire du Gros Horloge et, dans un second temps, nous verrons ensemble le rôle de ce beffroi. Le Gros Horloge est un des monuments les plus remarquables de Rouen. Il fait partie des trois plus vieilles horloges de France et sa construction date du XIVe siècle. Cette horloge immense en plomb doré orne le bâtiment depuis 1389, mais ce n'est que depuis 1527 que l'horloge est présente au-dessus de la rue sur les deux faces lorsque l'arche fut construite. L'horloge indique à la fois l'heure, le jour de la semaine et les phases de la lune. En effet, si vous regardez bien, l'horloge ne comporte qu'une aiguille, celle des heures, car à cette époque, les minutes importèrent peu. Au-dessus de l'horloge, vous pouvez voir qu'il y a une boule noire. Elle ne fonctionne plus du tout. Cette boule permettrait de faire apparaître les différentes phases de la lune, très utile pour les agriculteurs, afin de savoir quand semer ou récolter les cultures. Et en dessous de l'horloge, vous pouvez observer un semainier de forme légèrement arrondie et encastrée. Et devinez quoi, ce semainier fonctionne toujours. Chaque jour, le semainier se déplace pour montrer un dessin gravé représentant une divinité romaine accompagnée d'un ou deux signes du zodiaque. On peut ainsi remarquer Diane pour lundi, Mars pour mardi, Mercure pour mercredi, Jupiter pour jeudi, Vénus pour vendredi, Saturne pour samedi, et pour dimanche, alors, qui est la divinité représentée? Eh bien, il s'agit d'Apollon, le dieu du soleil. Maintenant que nous en savons plus sur ce Gros Horloge, il me faut ouvrir une parenthèse linguistique. Pourquoi dit-on « le Gros Horloge » et non pas la Grosse Horloge? La réponse est très simple. Cela est dû à la transition du latin vers le français et à l'évolution de la langue française. En effet, en latin, il y a trois genres qui existent. Le genre masculin, le genre féminin et le genre neutre, comme en allemand, par exemple. Le mot « horloge » vient du latin « horologium », qui vient lui-même du grec « horologion », qui était masculin. De plus, au Moyen Âge, le mot « horloge » n'avait pas de genre défini, donc on pouvait tout aussi bien dire « un ou une horloge ». Quant à la langue française, c'est à partir du XVIe siècle qu'on a commencé à vouloir fixer les genres des mots, et c'est au XVIIe siècle qu'on a fixé celui d'horloge qui est devenu féminin. Cependant, cette règle grammaticale ne s'est pas appliquée pour ce magnifique monument rouennais, et on peut émettre l'hypothèse que l'usage du masculin par les Rouennais, hérité du latin, s'est installé avec le temps. À présent, tournons le regard vers la droite pour évoquer le beffroi. Le beffroi qui est devant vous est de style gothique et il abrite, depuis sa construction à la fin du XIVe siècle, les cloches communales et l'horloge de la ville. Le beffroi actuel remplace une tour plus ancienne qui a pu appartenir à l'origine, à l'enceinte du Bas-Empire. Peu d'informations existent concernant cette première tour, si ce n'est que son noyau forme encore la base de la tour actuelle. Elle fut rasée par Charles VII en 1382, en punition de la révolte de la Harelle. À la suite de cette révolte, les Rouennais avaient perdu leur liberté communale, qui leur avait été donnée par Jean Santerre au début du XIIIe siècle. Les bourgeois rouennais, fort dépités de cette perte, décidèrent de faire construire une horloge et profitèrent de l'occasion pour demander au bailli de Rouen l'autorisation de la placer là où se trouvait le beffroi. Le bailli, comme le roi, dans des lettres lues au conseil en 1389, ne pouvait s'opposer à cette demande. Par conséquent, le 5 août 1389, le conseil décide de construire une tour pour accueillir l'horloge. Dès le 1er septembre, la tour est devenue le beffroi dans un autre délibéré. Faute de récupérer leur pouvoir, les bourgeois rouennais en ont au moins obtenu le symbole. Depuis, pour les Rouennais, la tour de l'horloge a toujours été le beffroi. Les travaux de construction ont duré 9 ans car les finances de la ville étaient en mauvais état. La tour était couronnée d'une flèche de charpente couverte de plomb. En 1707, la charpente menaçant de s'effondrer, on décida de la remplacer, à partir de 1711, par un dôme circulaire surmonté d'une lanterne. C'est le dôme que vous pouvez observer tout en haut du beffroi. À l'intérieur de ce beffroi se cache un musée que je vous recommande si vous souhaitez découvrir l'une des plus anciennes installations d'horlogerie de France. Vous pourrez même accéder à l'un des plus beaux panoramas sur la ville via l'escalier. Mais attention, ce dernier n'est pas facile à monter. Au sein de ce musée, ne manquez pas les deux cloches datant du XIIIe siècle et qu'on appelle la Rouvelle et la Cacheribot. La première sonnait le tocsin et la seconde le couvre-feu à 21h. Les ribauds étant les débauchés qui sortaient à cette heure dans les rues de Rouen, alors peu fréquentables. Avant de quitter le Gros Horloge et de rejoindre la place du Vieux Marché pour la dernière étape de notre visite, laissez-moi vous dire que le Gros Horloge de Rouen possède aussi sa véritable copie dans la cathédrale Notre-Dame du Liban à New York. Et oui, il y a un petit bout de Rouen chez nos amis américains. Afin de poursuivre notre visite, nous allons nous diriger direction la place du Vieux Marché. Pour cela, nous allons traverser la principale rue de Rouen, la rue Jeanne d'Arc, puis nous allons emprunter la seconde partie de la rue du Gros Horloge. Devant vous devrait apparaître la place du Vieux Marché, la plus ancienne place de Rouen, avec son église moderne et atypique intitulée l'église Jeanne d'Arc. Ce n'est pas l'église qui nous intéresse ici, mais plutôt le plus bûcher sur lequel Jeanne d'Arc a perdu la vie. Pour le trouver, approchez-vous du restaurant La Couronne, puis tournez à droite. Passez devant la porte principale de l'église et montez les marches. Sur votre droite, vous allez apercevoir un bûcher constitué de grosses pierres et parfois de quelques plantes et fleurs. Pour être sûr que vous êtes au bon endroit, regardez derrière le bûcher, à 3 mètres. Vous devriez apercevoir un panneau intitulé « Le bûcher » et rappelant la triste fin de vie de Jeanne d'Arc. Nous voici devant l'un des lieux les plus importants de l'histoire de Rouen et de France. Le bûcher de Jeanne d'Arc. Replaçons-nous dans le contexte de l'époque pour comprendre comment et pourquoi Jeanne d'Arc a brûlé vive ici. Nous sommes en pleine guerre de 100 ans. Cette guerre de 100 ans qui va durer de 1838 à 1453 oppose les Français aux Anglais. L'élément déclencheur de cette guerre est la confiscation par le roi de France, Philippe VI, des fiefs d'Édouard III, roi d'Angleterre, en 1338. La rivalité des deux rois remonte à 1328. Charles IV le Bel meurt sans héritier mâle. L'arbre généalogique voudrait qu'Édouard III devienne roi de France, mais Philippe VI est choisi. En réponse, Édouard III revendique la couronne de France. La guerre est officiellement déclarée. Plusieurs périodes de victoires et de défaites se succèdent dans les deux camps. En 1346, les Français sont écrasés à Crécy par les archers anglais. La reconquête française a lieu de 1360 à 1380, mais les Anglais repartent en guerre en 1415 sous les ordres de leur nouveau roi, Henri V. Le 25 octobre 1415, les archers anglais l'emportent sur la cavalerie française, près d'Azincourt, dans le Pas-de-Calais. En 1420, Charles VI est contraint de signer le traité de Troyes avec Henri V et de le reconnaître comme son héritier. En 1422, Jeanne d'Arc, une jeune paysanne née à Domremy en 1412, se présente au roi Charles VII, alors très affaibli. Elle se dit élue de Dieu, chargée de bouter hors de France les Anglais. Gagnant sa confiance, elle sauve Orléans en 1430. Le roi multiplie alors les victoires, renforçant son pouvoir et son image. Suite à sa victoire à Orléans, sa plus grande face aux Anglais, Jeanne d'Arc remonte vers le nord de la France, mais malheureusement, elle va être capturée par un petit groupe de Français, les Bourguignons, alors très en colère contre le roi de France en place. Faite prisonnière par les Bourguignons, ces derniers vont vendre Jeanne d'Arc aux Anglais déjà établis à Rouen. Elle va passer un an, seule dans une tour, en attendant la tenue de son procès pour hérésie à Rouen, en 1431. La sentence sera terrible, car il va être décidé de la brûler vive. notamment car elle est considérée comme étant une sorcière, car depuis son plus jeune âge, elle entend des voix. Malgré sa mort, le roi de France parvient à reconquérir son territoire. En 1435, il signe la paix d'Arras avec le duc de Bourgogne et reprend Paris. La guerre de Cent Ans s'achève en 1453. Maintenant que nous en savons plus sur le contexte historique, il faut expliquer ce qu'est un bûcher. Le bûcher est un amas de bois, parfois complété d'autres combustibles, destiné à brûler soit un cadavre humain au cours d'un rite funéraire, soit un individu condamné à mort. Du Moyen Âge jusqu'au XVIIIe siècle, le bûcher a été utilisé notamment pour exécuter des personnes qualifiées de sorciers ou de sorcières, d'hérétiques ou de régicides. À présent, si vous regardez le bûcher, vous pouvez constater qu'il en reste peu de choses. Quelques pierres, et sur le dessus de ces pierres, quelques fleurs. Mais prenons le temps de revivre les dernières 24 heures de la vie de Jeanne d'Arc. Pour rappel, nous sommes le 30 mai 1431 et c'est le matin même que Jeanne d'Arc apprend qu'elle va être brûlée vive sur la place du Vieux Marché. L'évêque Cochon, celui qui a présidé le procès, lui rend visite dans sa cellule pour l'emmener au bûcher. Il est 9 heures quand elle va être brûlée devant une foule qui s'est amassée pour assister à cette scène. D'ailleurs, saviez-vous que la Pucelle d'Orléans avait été brûlée? Non pas une fois ni deux fois, mais trois fois. En effet, le cardinal de Winchester, pour être sûr que Jeanne d'Arc avait totalement brûlé, a ordonné trois crémations successives. Lors de la première crémation, Jeanne d'Arc est morte par intoxication en raison des gaz toxiques issus de la combustion. Le bourreau a alors écarté les fagots à la demande des Anglais qui craignaient qu'on dise qu'elle s'était échappée. À ce stade de la crémation, Jeanne d'Arc était morte, mais son cadavre toujours visible. La deuxième combustion a duré des heures et a fait exploser la boîte crânienne et la cavité abdominale dont les morceaux ont été projetés sur le public, situé en contrebas, laissant au milieu du bûcher les organes calcinés, à l'exception des entrailles et du cœur. Il faut savoir que les entrailles et le cœur sont les parties du corps qui sont les plus humides, et donc qui brûlent moins vite. Enfin, lors de la troisième et dernière crémation, le bourreau a ajouté de l'huile pour détruire les dernières parties du corps de Jeanne d'Arc. À la fin, il ne restait que des cendres et débris osseux jetés le jour même dans la Seine sous le pont Boieldieu, mais dont le nom à l'époque était le pont Mathilde pour qu'il n'y ait pas de reliques. Petite information insolite, le bourreau de Jeanne d'Arc, Geoffroy Terrage, est devenu incontinent après l'exécution de Jeanne d'Arc et était terrorisé à l'idée qu'une sainte puisse se venger. Aujourd'hui, il reste peu de traces du bûcher. Seul un panneau situé derrière le bûcher rappelle la date de la mort de Jeanne d'Arc. Néanmoins, Rouen possède deux monuments en hommage à Jeanne d'Arc. Le premier se situe à droite du bûcher, côté église. Il s'agit de cette croix érigée en 1920, mais que certains Rouennais trouvent moche. Et puis, le second monument, beaucoup plus imposant, est l'église Jeanne d'Arc, dont le toit ressemble à un long bateau viking à l'envers. Nous voici arrivés à la fin de notre visite. J'espère que vous avez apprécié cette balade dans les rues et l'histoire de Rouen. Avant de vous quitter, si vous souhaitez poursuivre votre découverte de Rouen, laissez-moi vous donner quelques conseils. D'abord, je vous recommande d'entrer à l'intérieur de l'église Jeanne d'Arc. Sa structure atypique et son toit en forme de coque de bateau sont remarquables. À côté de l'église, vous remarquerez les ruines de l'église Saint-Sauveur, église qui a été dévastée par les Huguenots en 1562 et qui n'a jamais été reconstruite. Ensuite, si vous avez envie de déjeuner ou de dîner, je vous recommande les restaurants Gilles Côté Bistrot, Le Boma et Le Sixième Sens. Les coordonnées de ces restaurants sont à retrouver dans le document PDF qui est en votre possession. Enfin, si vous avez aimé la visite, sachez que vous pouvez laisser un commentaire sur le site internet ou sur l'application mobile que vous avez utilisée pour acheter cette visite audio guidée. Si vous avez des questions, vous pouvez me contacter par mail ou par WhatsApp. Mes coordonnées sont à retrouver dans le document PDF qui est en votre possession. Ce fut un plaisir de vous accompagner dans ma ville et je vous souhaite un excellent séjour à Rouen.